France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore what you do.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une drôle d'idée quand on y songe de faire de la radio sur des images, en prétendant les faire advenir par la parole. C'en est une autre, également étrange, de faire une exposition sur un morceau de musique pour donner à voir ce qu'elle machine d'imagination. Alors, nous étions faits pour nous entendre. Nous avons été à la belle exposition Ravel Boléro qui se tient jusqu'au 15 juin au Musée de la musique de la Philharmonie de Paris pour y aller voir, ou plutôt pour se laisser immerger dans cette grande machine à voir qu'est ce morceau de musique composé par Maurice Ravel en 3 mois et créé le 22 novembre 1928 à l'Opéra de Paris pour la danseuse Ida Rubinstein qui fut sa commanditaire. Un seul mouvement, long de 340 mesures, un ostinato rythmique mêlant 2 motifs mélodiques en un long, implacable et chatoyant crescendo orchestral. Voilà ce qu'est cette musique qui, bientôt pressée sur 78 tours, jouée, dansée, reprise dans le monde entier, deviendra un hymne universel. Un hymne qui transcende les cultures savantes et populaires, en fanfare, pour reprendre le titre du film d'Emmanuel Courcol, qui triomphe actuellement sur les écrans, car on y comprend ce que le boléro de Ravel doit, ce qu'il doit, et en retour, ce qu'il peut rendre au peuple des usines. Une machine, vous dis-je, une machine à voir. Alors, on en parle avec Lucie Caillas, Pierre Corsilius et Lionel Dufault, bientôt rejoints par notre nouvelle sociétaire Julia Puma. On en parle, mais d'abord, écoutez comment ça commence sous la baguette de Ravel lui-même en 1930. Écoutez, ou plutôt, écoutez voir. Pierre Corsilius, bonjour.
Bonjour Patrick.
Vous êtes un musicologue qui vous intéressez à la gestion des institutions culturelles. Votre carrière vous a mené de Berkeley à Düsseldorf. Vous avez été directeur artistique du Festival des Nuits Romantiques du Lac du Bourget, actuellement directeur du pôle art et culture du Collège des Bernardins et commissaire de l'exposition Ravel Boléro qui nous réunit et qui nous immerge véritablement dans cette musique. C'était ça votre idée ?
Absolument. L'immersion, plongée dans ce boléro qui unit en fait la terre entière, et donc l'exposition commence bien naturellement, comme cette émission, avec le boléro.
Et on est dedans, on est dedans. On est avec un orchestre et il s'allume au fur et à mesure qu'arrivent les instruments.
Voilà, il s'allume puisqu'il prétend des codes couleurs pour se repérer dans cette composition qui est sur le fond assez simple, mais quand on regarde attentivement, beaucoup, beaucoup plus complexe.
Bonjour Lucie Caillas. Vous êtes professeur honoraire au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, musicologue, spécialiste de la musique française au XXe siècle. Vous avez publié plusieurs livres sur Francis Poulenc et André Jolivet. Vous avez dirigé le beau catalogue aux éditions de La Martinière de cette exposition. Vous êtes la conseillère musicale. C'est simple, la structure musicale de ce morceau, ou c'est faussement simple? Comment vous diriez?
C'est tellement simple qu'on a quand même dû en faire un schéma pour être sûr qu'on avait bien compris et pour proposer au public de s'y repérer vraiment et de comprendre la subtilité qu'il a, alors qu'on a l'impression que c'est toujours la même chose.
Oui, c'est ça. Et c'est ce schéma que vous donnez à voir aussi, justement, dans le catalogue. Claude Lévi-Strauss était essayé à faire un schéma structural de cette manière.
Il avait une vue très différente, il avait une vue structuraliste. Donc oui. Lui s'est intéressé vraiment à la manière dont les choses sont agencées. Et moi, je me suis intéressée à la manière dont elles sonnent, on va dire, et à la couleur, puisqu'on est en musique à voir.
Lionel Dufaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur du patrimoine à la Cité de l'architecture et du patrimoine, spécialiste des cultures techniques du 19e siècle, ces gares, ces locomotives, ces machines. Votre histoire des collections du Conservatoire des Arts et Métiers est parue en 2022 aux presses universitaires de Rennes sous le titre « L'amphithéâtre, la galerie et le rail ». Je disais « machine » tout à l'heure. C'est vrai que Ravel est de cette génération qui pense que la beauté ne s'observe pas seulement dans la nature, mais justement dans le monde des usines, hein, c'est bien ça.
Ravel est de cette génération des foules qui se pressent aux expositions universelles, qui vont assister à la technique qui se donne à voir, elle aussi, qui se met en scène dans ce qu'elle a de plus prometteur pour l'humanité et dans ce qu'elle a de plus fascinant travers la répétition, la cadence, des choses qui interrogent et qu'on retrouve probablement dans sa musique.
Il disait même, je crois que c'était dans une interview du début des années 30, qu'il voulait que ce boléro soit entendu avec le bruit d'une usine au fond, hein, c'est ça ?
Absolument, et on imagine bien le boléro avec une chaîne de montage, l'éclectie des outils, de la mécanique, du métal qui frappe et de ces cadences mécaniques qui reviennent automatiquement et inlassablement sans fatigue.
L'exposition universelle dont vous parlez, c'est celle de 1889 en fait. Il en a été visiteur enthousiaste.
C'est ça, il en est un visiteur. Il était jeune, hein, il était adolescent et on peut même imaginer qu'il s'est rendu dans les autres expositions qui suivent et qui sont les rendez-vous du tout Paris, mais même au-delà. Quand on songe par exemple qu'en 1900, 50 millions de visiteurs se pressent à Paris pour visiter l'exposition universelle.
Mais alors justement, là, nous sommes 40 ans plus tard, Lucie Caillas, nous sommes en 1928, au moment où il reçoit cette commande, Maurice Ravel est au fait de sa gloire.
C'est certainement son voyage aux États-Unis qui précède le boléro, qui l'a propulsé au sommet de sa gloire. Parce que quand on lit la correspondance, on voit bien sa stupéfaction. Quant à New York, il a une standing ovation. Au fond, Paris n'avait pas vraiment habitué à ça.
Ah oui.
Donc il y a quand même un effet rétroactif du voyage aux États-Unis, de la presse, qui fait que quand il revient, effectivement, je pense que Pierre est d'accord, il est propulsé au sommet de sa gloire.
Oui, Pierre, justement.
Oui, et cette conjonction en fait de gloire et cette commande qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe en fait avant le départ aux États-Unis, et ben cette conjonction d'éléments le propulse dans la situation de faire peut-être pour la première fois ce qu'il voulait vraiment faire.
Ah oui.
Et le boléro est en fait cet exemple d'une création dans les contraintes, mais comme il y a tellement de contraintes, eh bien, il était libre de faire ce qu'il voulait.
Donc, c'est une commande.
Hein, c'est une commande, voilà.
C'est une commande, c'est donc une danseuse qui veut, d'ailleurs, elle-même le danser.
Absolument, c'est une commande faite sur mesure pour elle, avec une commande quand même très simple.
Une danse espagnole, hein.
Composez-moi un ballet hispanisant, et c'est tout. Et Ravel a choisi la solution de facilité. Je vais orchestrer Iberia d'Isaac Albéniz, une suite pour piano, et puis je serai débarrassé. Vraiment, Ravel est le grand orchestrateur, les tableaux d'une exposition, Moussorgsky, on sait ce qu'il sait faire, il fait ça extrêmement rapidement. Et les circonstances ont voulu que les droits ne soient pas disponibles, il doit trouver une autre solution. Et comme vous le disiez, il est à quelques mois de la création. Madame Rubinstein a quand même loué l'Opéra de Paris, donc c'est quand même pas rien. Trois représentations, assemblées en cast de rêves, et il fallait qu'il livre.
L'histoire du boléro de Ravel, c'est l'histoire aussi de sa réception, et de sa réception immédiate et globale. Lucie Caillas, bon, ça va quand même l'étonner, il a quelques années encore
Moi,
à vivre.
Je voudrais parler d'abord de la réception par Ravel lui-même.
Ah oui.
Parce que, donc il n'est pas là déjà, c'est quand même extraordinaire, il n'est pas là pour la première, parce qu'il faut aller à Oxford être fait docteur honoris causa, il faut aller jouer en Espagne à Malaga, et donc il arrive pour la troisième représentation. Et finalement, il la trouve très bien, mais il regrette le côté pittoresque. Et moi je trouve ça très intéressant, parce que ça nous met sur la piste de, c'est espagnol, parce qu'elle l'a demandé, elle, Ida Rubinstein, mais lui, c'est peut-être pas ça qui l'intéresse.
Ah oui.
Et c'est peut-être plutôt ce côté mécanique, casse-tête,
Alors les mécaniques, les casse-têtes, les jouets, les poupées de Kobe, tout ça, c'est l'univers que donne à voir justement votre exposition, hein, Boléro Ravel. Comment vous avez justement arbitré, organisé ce parcours de visite, Pierre Corzilius? Vous dites que voilà, on est d'abord immergé dans la musique, puis ensuite il y a des salles. Racontez-nous un peu.
Oui, il faut d'abord se remémorer ce boléro. C'est pour ça qu'on l'entend dans ce film immersif, puisqu'il est diffusé sur un très grand écran. C'est un film qu'a réalisé Gordon et François-René Martin avec l'Orchestre de Paris. Et donc, on plonge vraiment dans le boléro et on découvre un peu sa structure avec des codes couleurs qui vous guident. Et en sortant, on tombe sur Ravel. On le voit sur des images d'archives. Il vous salue même sur un écran, sur son balcon au Belvédère, sa maison qu'il a occupée depuis 1921. Et puis, on a une galerie de portraits qui montre le Ravel des années du conservatoire jusqu'à l'année de gloire 1928, mais déjà avec des clins d'œil, plusieurs clins d'œil art plastique, portrait d'Henri Manguin, ce peintre fauve qu'il a peint avec ses couleurs tout à fait fascinantes, du vert fluo, du jaune fluo, du rouge, et Ravel porte la moustache, il est apache, mais on voit le Ravel tiré à quatre épingles à peu près, et le Ravel humoristique.
Le Ravel coquet, d'ailleurs, Vladimir Jankélévitch a écrit sur la coquetterie de Ravel.
C'est dandy, hein, vraiment, plus que coquet, moi, je pense. Voilà.
Alors, et justement...
Évidemment, on a les autres aspects, les ingrédients de ce boléro, qui sont aussi les révélateurs de la personnalité de Ravel. C'est l'Espagne, évidemment, c'est le sujet de la commande, donc l'Espagne, sa mère, l'univers espagnol, le Pays basque. On parlait du côté mécanique, c'est un aspect qui est développé dans une section particulière, et surtout l'enfance, qui est un peu le regard plus étonnant, puisqu'on ne voit pas Ravel comme un enfant, mais en fait si, c'était quand même aussi un éternel enfant. C'est quelqu'un qui dit qui n'a pas quitté les vertes prairies de son enfance, et donc il fallait qu'on explore cette facette aussi.
Alors cet éternel enfant avait une petite maison, une toute petite maison, une maison de poupée même, a-t-on pu dire, la maison de Montfort, qui est en partie reconstituée à la Philharmonie. On va écouter un extrait, c'est la gardienne de la maison de Montfort qui nous l'a fait visiter et qui nous donne à voir justement quelques jouets, et des jouets mécaniques. Écoutez.
Alors voilà son petit salon chinois. Il l'appelait ainsi parce que bon, il y a des chinoiseries qui étaient quand même très, très au goût de l'époque. Les gens aimaient beaucoup les chinoiseries. Et j'ai appris parmi les nombreux visiteurs japonais la traduction de certaines estampes japonaises, dont celle-ci qui représente des ruines romaines. Et la traduction, c'est une église d'une ville de Hollande. Ça, c'est une autre estampe représentant un petit train. Et traduction, petit train de Yokohama. Voilà. Et puis les jouets. Comme je vous disais, l'enfant a les sortilèges, revient partout. Ce sont des petites poules qui, avec un poids en dessous et des ficelles qui les font picorer. Voilà. Jeu de cartes, jeu de puces dans un petit coffret. Ce petit canapé est un liquage qu'il a recouvert avec des tissus un petit peu somptueux. Et quand on soulève, c'est un liquage. Et ça, c'est le clin d'œil.
Alors Lionel Dufaux, on a vu des jouets, on a vu des mécaniques. On sait d'ailleurs par son frère qui était ingénieur, comme son père d'ailleurs, qui était passionné justement par ce Conservatoire National des Arts et Métiers dont vous avez fait l'histoire des collections. Il adorait le Canard de Vaucanson. Enfin, tout ça, c'est son monde, la mécanique.
La mécanique, on a un peu oublié ça, nous, aujourd'hui, qui vivons dans un monde désindustrialisé et dans des villes où l'industrie n'est plus présente. Mais à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les usines, les ateliers, les fabriques, les manufactures sont encore très visibles. On les côtoie à chaque coin de rue finalement. Et il y a, notamment pour les enfants, toutes sortes d'objets, de jouets mécaniques, bon marché, qui font partie de ces articles de Paris, hein, qu'on trouve dans les grands magasins et qui coûtent vraiment peu cher. Des objets très simples, avec des ressorts, des petits élastiques, des goupilles qu'on tourne, et qui se mettent en mouvement. Et on sait que parmi les multiples gadgets et bibelots qu'on peut acheter, par exemple lors des expositions universelles, il y a des objets souvenirs comme ceci, bon marché, qui viennent de loin, mais qui souvent répondent à un goût très occidental et qui ont été spécifiquement faits pour un public européen.
C'est ça. Donc la mécanique chez Maurice Ravel, alors on la met souvent du côté du grandiose. On dit bah oui, c'est Métropolis ou c'est la locomotive, le bruit de la locomotive chez Arthur Neger, notamment. Donc, il y a ça, mais il y a aussi ce monde de l'enfance, finalement.
Il y a ce monde de l'enfance et le monde du quotidien. Allumer une lampe à huile à la fin du 19e siècle, ou remonter une pendule, ça nécessite de mettre un petit peu, selon l'expression consacrée, les mains dans le cambouis. Et il faut aller régler, tenter, expérimenter, parfois réparer, ajuster. Et donc, c'est quelque chose qui est très intégré dans la culture populaire.
Donc ça, c'est évidemment ce qui explique aussi les écaillasses et la composition du boléro, et peut-être sa réception comme une musique qui est à la fois savante, mais immédiatement populaire, parce que liée au fond au monde moderne.
Alors, moi je me demande si c'est la mécanique qui l'a rendu populaire. Moi je pense que c'est aussi c'est le côté entêtant des mélodies. Des mélodies qui ont l'air d'être très faciles à mémoriser, même si c'est pas si sûr que ça. Je suis pas sûre que ce soit la mécanique qui ait séduit les gens. J'ai vraiment plutôt l'impression que c'est ce côté, la rythmique, l'espèce de transe que ça produit, la fascination, plutôt que...
Pierre Corzilius, il y a d'ailleurs un article très intéressant sur la transe et la danse chez Ravel, parce que n'oublions pas que la commande, elle était là, hein, un ballet. Tout ça, effectivement, lié, Pierre Corzilius.
Moi, je trouve que ça produit la transe. Quand on arrive à la seule modulation à la fin, on est dans la transe.
Pierre Corzilius.
Oui, il faut pas oublier qu'effectivement il a cherché effectivement cette conception, et je dirais presque, comme il le dit lui-même, en fait son œuvre est vide de musique, c'est-à-dire la mélodie était vraiment pas le sujet principal. C'est acculé dans ce délai très court, il voulait réaliser un concept. Il écrit dans cette toute petite lettre qu'on montre en début d'exposition: j'ai réalisé une machine et j'aurais été saboté pour ce projet que j'avais imaginé il y a quelques années. C'est-à-dire là, il pouvait se le permettre d'aller jusqu'au bout. Et en fait, ce côté enfant, c'est aussi l'audace ou l'insolence d'un enfant. Mais là, l'insolence et l'audace, elle est dans les mains d'un génie. Donc il arrive à créer quelque chose. Il arrive à résoudre un casse-tête, c'est-à-dire peu de temps, une structure, un ballet.
Ah oui, il y a les casse-têtes aussi. Il y a les casse-têtes dans l'exposition.
Et c'est un casse-tête. Il réalise un casse-tête. Voilà.
C'est important, ça, Lucie Caillas.
Et c'est là que dans le boléro, et ben, tout ça se conjugue. Et le boléro, à travers ça, la mélodie est un produit, moins important.
Les casse-têtes.
Oui, les casse-têtes. Donc il y en a beaucoup finalement dans l'exposition. Il y a les casse-têtes un peu classiques, on va dire en bois, où il faut que les choses s'imbriquent. Et puis il y a ces casse-têtes fil de fer.
En fil de fer, oui.
Où il faut dissocier les petits éléments, le cœur de la croix, etc. Quand on regarde les boîtes, on voit qu'il les a manipulées. Donc après, on peut se poser la question, mais quand est-ce qu'il les faisait, ces casse-têtes? Pourquoi est-ce qu'il les faisait? Est-ce que c'était ses nuits d'insomnie qui passaient à faire ces casse-têtes? Est-ce que c'était quand la musique fonctionnait pas, qu'il fallait faire autre chose? Et en même temps, le boléro, moi je pense que c'est vraiment un casse-tête. C'est-à-dire qu'il s'est donné quelques contraintes qu'il a fallu résoudre. Et puis c'est un casse-tête très français, c'est-à-dire que c'est un casse-tête qui joue sur la répétition contre le développement.
Ouais,
et
c'est ça.
Je trouve que c'est très intéressant.
Alors justement, on est bien dans ce monde du 19e siècle des expositions universelles. C'est un casse-tête très français, Lucie Caillas. Mais en même temps, on voit que dans ces objets, il s'entoure, il est au fond le metteur en scène de son propre environnement. Il y a aussi des poupées de Kobe, Lionel Dufaux.
Oui, exactement ce genre de petits objets faits pour le commerce, pour le marché français, qui répondent à un goût occidental, mais qui proviennent de l'étranger, qui séduisent par leur dimension exotique. Et on retrouve cette contradiction de la fin du 19e siècle et du début du 20e, c'est-à-dire que les nations étrangères qui sont invitées, par exemple, lors des expositions, au départ, sont là pour montrer leur savoir-faire, leur culture, leurs coutumes, et très rapidement se retrouvent confrontés à tomber dans une espèce de figure imposée du spectacle, du spectaculaire, où il faut absolument séduire la nation qui invite.
Donc, Lucie Caillas, il y a effectivement le japonisme, qui est important, peut-être moins que pour d'autres musiciens français de ce temps, mais qui est présent également.
C'est vrai que moi, je suis plus tentée de parler d'exotisme que de japonisme, parce que effectivement, les poupées, elles viennent de Kobe, mais si on regarde la musique de Ravel, il n'y a pas tellement de choses japonaises. Ouais. Il y en a plus chez Stravinsky. Si on pense aux deux Scheherazade, c'est l'Asie d'une manière beaucoup plus large. Donc moi, sincèrement, je peine à trouver le Japon dans la musique
d'accord.
de Ravel.
D'accord, alors on va aller au plus simple. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a cette pièce espagnole, qui est aussi la pièce de sa mère, puisque c'est en Espagne que sa mère rencontre son père, si je comprends bien. Enfin, c'est lié, effectivement, à son enfance. Oui, l'Espagne, c'est toujours un peu lié à l'enfance. Écoutez la carte postale que nous envoie Mathieu Pote-Bonneville, qui est, comme vous le savez, directeur du département création du Centre Beaubourg.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, depuis que nous avons entamé cette correspondance, j'attendais de pouvoir pousser le bouchon jusqu'à vous expédier l'une de ces cartes postales qui faisait mon ravissement et mon trouble lorsque, enfant, je faisais tourner les présentoirs touristiques de Saint-Jean-de-Luz ou de Saint-Sébastien. Figurant une danseuse sévillane, symbole que le général Franco, pas encore claqué à l'époque, avait érigé comme les taureaux et les castagnettes en emblèmes nationaux obligatoires, folklorisant l'Andalousie pour mieux étouffer le Pays basque. Figurant une danseuse sévillane, donc, ces cartes superposaient à sa silhouette polychrome un jupon véritable, un bout de tissu raide, froncé et disposé en volant, brodé de méchants tulles, ses bords plaqués à la glu sur le bristol. Mais si l'on se risquait à distendre ou à décoller ce vêtement postiche pour voir un peu derrière, et l'on s'y risquait, Patrick, je dois bien l'avouer, on découvrait alors rien, ni corps dévêtu, ni même photographie habillée, rien que des tronçons de jambes absentés du torse qu'il leur revenait de soutenir, morceaux d'images flottant dans un espace que seul l'empiècement faisait tenir ensemble, comme froufroutant sur un abîme. C'est étrange la mémoire, Patrick. Au moment d'évoquer l'engouement pour l'Espagne, qui a saisi les arts et lettres en France pendant plus d'un siècle, de Hugo à Bizet, à Berlioz ou à Musset, tenez, nous venions de voir le taureau, trois garçons, trois fillettes, et nous dansions un boléro au son des castagnettes. Bon, c'est pas le meilleur Musset. Au moment d'évoquer cela, c'est cette image qui me revient. Ce surplis apposé sur un fond cartonné, ce petit bouquet d'émotions réduites à leurs emblèmes, danser, s'aimer, battre du pied, et dont le pauvre chatoiement dissuade de tout développement, jusqu'à libérer par-dessous un vide d'une toute autre trempe, l'espace inouï d'un néant où s'engouffre le sens. Écoutez, par exemple, Jean-Christophe Bailly évoquait la toile de Manet intitulée « Le torero mort ». C'est dans son livre « La fin de l'hymne ». Je cite « Le torero mort de Manet, personne encore n'était mort comme lui dans la peinture ». Personne n'était venu se coucher comme cela, tellement sur le devant de la scène qu'il n'y a plus de scène, plus de limite pour faire qu'il y ait quelque chose comme une scène, rien que la mort, rien que le poids qu'elle ajoute au corps, un poids visible et qui vient là, sur l'impalpable surface, comme une chose lourde et aveugle. Et écoutez, quand Jean Echenoz décrit ce que Ravel mit dans son boléro, c'est exactement la même chose, ou la même absence bouleversante de choses. Je cite « Il sait très bien ce qu'il a fait, il n'y a pas de forme à proprement parler, pas de développement dit de modulation, juste du rythme et de l'arrangement. Bref, c'est une chose qui s'autodétruit, une partition sans musique, une fabrique orchestrale sans objet, un suicide dont l'arme est le seul élargissement du son, phrase ressassée, chose sans espoir et dont on ne peut rien attendre. » Fin de citation. Chose lourde et aveugle ici, chose sans espoir là. Ravel dira du boléro qu'il s'agit de son chef-d'œuvre et qu'il est vide de musique. « Vérité au-delà des Pyrénées », écrivait Blaise Pascal. Pour les modernes, la vérité c'est que le soleil brille, les couleurs dansent, les corps s'habillent de lumière et qu'en dessous vient une chose, c'est-à-dire rien.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Pierre Corzilius, donc on visite l'exposition dont vous êtes le commissaire, Ravel Boléro, à la cité de, à la Philharmonie, au musée de la musique de la Philharmonie. Donc il y a cette Espagne. Cette Espagne un peu rêvée. On voit Manet, mais on voit aussi un portrait. Qu'est-ce que vous avez voulu donner à voir de cette Espagne?
Comme on l'entend dans la carte postale, c'est l'image de l'Espagne qui reste quand même encore au XXe siècle, au début du XXe siècle présente. C'est pour ça qu'on présente Lola de Valence de Manet, qui est quand même ce chef-d'œuvre qui illustre et qui après, en fait, donne toute l'inspiration aux chorégraphies, aux productions qui vont suivre jusque dans les années 60. On montre une chorégraphie du ballet de Bolchoï, 1967, qui reprend encore les stéréotypes de l'Espagne du 19e siècle. Et cette image est extrêmement forte. Et Ravel, l'Espagne, parcourt tout son œuvre de Habanera jusqu'à Don Quichotte à Dulciné, qui compose la toute fin de sa vie, toujours sous le regard de sa mère, Marie Deloire, qui est présente au-dessus de son piano et qui illustre et qui incarne cet attachement à l'Espagne, ce tableau, ce pastel qui est vraiment avec ce regard inoubliable.
Mm-hmm. Lucie Callas.
Oui, je pense que c'est, l'exposition le montre bien, c'est à la fois l'Espagne et le Pays Basque, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a un mur de l'exposition avec toute une série de costumes de Léon Leritz et c'est vraiment... les stéréotypes de l'Espagne, les toreros, les capes, etc. Et puis en face, il y a toute une série de photographies qui sont le Pays Basque dont Ravel est originaire, où il retourne, il va se baigner, il va se promener, et puis il capte quand même aussi la musique basque et des métriques, des rythmes qui sont plus basques et impairs que espagnol finalement. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une rythmique basque très forte qu'on peut aller retrouver dans différentes pièces et puis des tournures mélodiques qui elles seraient plutôt espagnoles.
Bref, c'est une chose qui s'auto-détruit, une partition sans musique, une fabrique orchestrale sans objet, un suicide dont l'arme est le seul élargissement du son, phrase ressassée, chose sans espoir et dont on ne peut rien attendre. Voilà au moins, dit-il, un morceau que les orchestres du dimanche n'auront pas le front d'inscrire à leur programme, écrit Jean Echenoz dans son formidable roman Ravel, paru aux éditions de Minuit en 2006. Parlons un petit peu justement de cette orchestration, qui est plus qu'une instrumentalisation, d'une orchestration. Comment ça marche en fait? Quelle est la structure?
C'est un petit peu ça l'objet du schéma, c'est d'essayer de voir, parce que finalement on connaît tous le boléro par cœur, on sait que c'est la flûte qui commence, mais est-ce qu'on sait vraiment comment ça marche et quelle est la stratégie de Ravel pour obtenir son crescendo?
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il agit du point de vue de l'orchestration et l'instrumentation, il agit sur la mélodie et il agit aussi sur l'ostinato. On a l'impression que l'ostinato, c'est que la caisse claire, mais non.
Ouais, et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on est vraiment dans la machine à voir. C'est-à-dire que pour lui, cette orchestration, c'est aussi une manière de mise en vêtement, en fait, de sa musique. Écoutez, l'un de ses disciples, Manuel Rosenthal, qui parle de cette orchestration, c'était à France Musique en 1990.
Alors, ces leçons d'orchestre étaient très curieuses. Parce que, évidemment, il n'y a pas de moyen de bien orchestrer ou non, ou on le sent, ou on ne le sentira jamais. Alors, c'était très difficile de comprendre ce qu'il voulait m'inculquer, c'est-à-dire le moyen de donner un vêtement orchestral intéressant à une musique qui est écrite, mais à laquelle il faut ajouter ce vêtement, sinon elle est nue. Alors, par exemple, il me disait, si vous avez trouvé que tel dessin sera bien joué par la clarinette. Ce qui est important, c'est que personne ne soupçonne que c'est la clarinette qui joue. Alors, vous allez lui adjoindre, par exemple, un alto en sourdine. Et l'alto, en somme, jouera dans l'ombre de la clarinette. Ce sera suffisant pour dénaturer le timbre de la clarinette seule. À ce moment-là, voilà un élément d'orchestration. N'est-ce pas ? C'est, en somme, vous avez à habiller une foule énorme, car alors, c'est énorme la foule qui représente l'orchestre, et là-dedans, vous choisissez des gens importants qui sont les solistes, et il ne faut pas qu'ils paraissent tout nus au milieu de cette foule, ça serait indécent. Alors vous les habillez, et là, vous êtes le seul maître du vêtement que vous allez choisir, ou des vêtements, n'est-ce pas, des différentes couleurs qui vont les parer, de façon à ce que ce soliste se présente dans le meilleur des mondes et la meilleure façon possible.
Vous allez habiller une foule, hein, lycée Caillard. C'est assez beau, effectivement, pour voir
c'est une
musique.
C'est une très belle image. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'il dit que ça ne s'apprend pas. Et c'est vrai qu'à l'époque où Ravel était étudiant, il n'y avait pas de classe d'orchestration. Et que son professeur Fauré n'orchestrait pas si bien que ça. Donc il a appris quand même ailleurs. Et à mon avis, il a appris avec les musiciens russes, et il le dit lui-même, quand il donne des conseils à des jeunes musiciens, en lui disant, vous connaissez le traité de Vidor, mais lisez celui de Rimsky, il est extraordinaire, il n'y a que des exemples de sa propre musique. Et donc je pense que le chatoiement de la musique russe a été un vrai modèle pour combiner les timbres et le jazz aussi. On le sait et on l'entend dans le boléro, puisqu'on entend au moins deux instruments particuliers, le saxophone, et on a l'impression qu'il y a une préparation pour l'entrée du saxophone. On entend la flûte, on entend clarinette, etc. Jusqu'à ce qu'on entende le saxophone. Et le saxophone, on lui écrit deux petits glissandi pour que ça fasse jazz. Et c'est écrit, c'est pas l'interprète qui les fait, c'est écrit. Même chose pour le trombone.
Pierre Corzilius, cette orchestration un peu jazzistique, vous avez donné aussi bien des éléments visuels pour la comprendre dans l'exposition.
Oui, on fait référence évidemment à son voyage aux États-Unis. Il faut pas oublier qu'il célèbre son anniversaire aux États-Unis avec George Gershwin. Donc c'est quand même tout un symbole. Et puis c'est vrai qu'il fréquentait il s'intéressait à la musique dans les clubs, dans les bars. Il allait vraiment écouter ce qui était joué dans les bars avec les chants, le jazz, tout cet exotisme qui n'avait jamais vu en vrai. Et c'est vrai qu'il est revenu avec ses sons dans ses oreilles. Et comme toujours dans Ravel, c'est quand même dans des petites touches. C'est quand même la perfection de Ravel, c'est la subtilité. Et on l'entend à petite dose. Et il a pleinement réussi cet exercice.
Lionel Dufaux, on rejoint là, avec l'orchestration, sa rythmique, la question de l'horlogerie. C'est un thème, un motif qui est assez dominant, envahissant même, dans la critique ravelienne. On dit c'est vraiment un horloger des sentiments peut-être, des émotions, mais aussi des rythmes.
Et c'est un horloger à une époque où l'horlogerie connaît une révolution majeure. Elle entre dans le domicile de très nombreuses personnes et n'est plus réservée à une élite. Et l'horloge, le temps, rythme la vie. Le chemin de fer a unifié le temps au milieu du 19e siècle. Le temps dans l'industrie s'impose aussi pour respecter les cadences et élever la productivité. Et Ravel visite les usines Ford à Détroit et il en fait un commentaire laissant paraître son épouvante face, on peut imaginer, aux cadences infernales qui sont imposées aux ouvriers dans ces usines-là.
Ding dong, ding ding ding, c'est la première partie de l'enfant et les sortilèges. On écoute quelques extraits.
je ne peux plus m'arrêter de sonner. Je ne sais plus où il est. Il m'a ôté mon balancier. J'ai d'affreuses douleurs de ventre. J'ai un courant d'air dans mon sang. Et je commence à divaguer.
Je marche.
Ding, ding, ding. Laissez-moi au moins passer. Que j'aille cacher ma honte sans les récits à mon âge. Moi, qui sonnais de douces heures. Heure de dormir, heure de veiller. Heure qui ramène celui qu'on attend. Heure bénie, où naquille mes soins d'enfant. Peut-être que, s'il ne m'eût mutilé, rien n'aurait jamais changé dans cette demeure. Peut-être qu'aucun n'y fut jamais mort. Si j'avais pu continuer de sonner toutes pareilles les unes aux autres, les heures. Laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, le nez contre le mur.
Lucie Caillas, qu'est-ce qu'on écoute là? L'enfant et les sortilèges, très important.
Oui,
hein.
Donc on entend Ravel enfant, oui. Qui vraiment se coule dans l'angoisse de l'enfant puni, qui détruit tout ce qui est autour de lui, dont l'horloge, dont le mécanisme se détraque. Donc oui. on entend tout ça, on entend aussi l'ironie avec les commentaires des cuivres derrière. Donc on est en plein entre l'enfance, la mécanique et cette histoire d'horloge. C'est quand même très présent aussi dans d'autres œuvres. Parce que quand on pense à l'heure espagnole, où tous ces hommes sont cachés dans des horloges, où le métronome est là dans l'introduction, enfin trois métronomes, puisqu'il y a donc trois rythmes des chœurs, vraisemblablement, c'est un thème très présent.
La chambre d'enfance, dans l'exposition dont vous avez été le maître d'œuvre, Pierre Corzilius, c'est important, c'est peut-être le cœur du dispositif au fond.
L'enfance, c'est peut-être la partie la plus inattendue de cette exposition. Oui. Et l'enfance, la mécanique, tout ça se rejoint. On montre encore une fois une toute petite page de partition, une correction d'un devoir de Eric Satie sur le Noël des jouets, qui est une pièce pour voix et piano de Ravel. On est en 1905. Et c'est la seule pièce pour laquelle Ravel a écrit un texte. Alors, je vais pas vous lire tout le texte, mais juste trois lignes qui montrent cette étonnante conjugation enfant et mécanique. Donc ça décrit une scène de Noël avec, avec les personnages, les tables, etc. Du haut de l'arbuste, Yémal assure la paix des érables et leur vol de clinquants vermeils qui cliquettent en bruit symétrique s'accorde au bétail mécanique dont la voix grêle, belle, Noël, Noël, Noël. Le seul texte que Ravel ait écrit pour une de ses œuvres. Et c'est quand même tout à fait étonnant. On voit que cette combinaison de mécanique, d'enfance, d'audace, insolence, folie peut-être, eh ben ça existe déjà là. Et cette partie de l'exposition nous montre cette facette qu'on soupçonne peut-être moins.
Ce qui est très étonnant, Lucie Caillas, pardon, c'est justement, vous le dites bien, la manière dont Ravel a été le scénographe de son propre décor de création. En fait, il installe autour de lui tous ces images, tous ces objets. C'est pas un fantasme du commissaire d'exposition.
C'est clairement une mise. Moi, je pense que vraiment la maison de Montfort, c'est une mise en scène d'un endroit dans lequel il puisse créer. Et je vous ai amené une petite citation qui concerne Ravel et Stravinsky.
Tout le monde amène des citations.
Parce que ça nous montre comment il pensait les objets. Donc voici ce qu'il écrit à Stravinsky le 2 janvier 1915. « Ainsi, vieux, tout était préparé pour recevoir dignement notre allié. Une chambre persane, avec voile de gêne, estampes japonaises, jouets chinois. Une synthèse de saison russe, quoi. Il y avait jusqu'à un rossignol mécanique, qu'on connaît, qui est dans l'expo. Et vous ne venez pas? Ah, la fantaisie slave. Donc ça montre que vraiment, il était même capable, pour ses invités, de fabriquer un petit décor à la mesure de Stravinsky et du Rossignol de Stravinsky.
Et il y a quelque chose qui m'a aussi intéressé dans l'exposition, c'est au fond comment Ravel impose sa marque. Alors dans la musique, sur son époque, il y a vraiment une marque Ravel, mais aussi sur ses objets. Hein. Il a un monogramme sur sa malle pour les États-Unis. Il utilise effectivement l'idée de... Oui, on est aussi dans cette société-là, Lionel Dufaux, c'est-à-dire une société industrielle et publicitaire. C'est quand même important, quand on entend le boléro de Ravel, d'être... on entend aussi, d'une certaine manière, cette société de consommation naissante.
Oui, et quand on entend les paroles que Ravel compose ou écrit, les seules qui nous soient parvenues, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces artifices que l'on retrouve dans... les cafés, les salles de spectacle, les magasins, tous ces automates musicaux électriques, mécaniques, qui sont mis en scène et qui fascinent. C'est les vitrines des grands magasins avant l'heure, hein, c'est exactement ça. Et on peut imaginer qu'un petit garçon comme le Ravel des années 1880 s'émerveille devant ce type d'objet.
Alors vous dites artifice, et un des enjeux également, me semble-t-il, et de l'exposition et du catalogue que vous avez dirigé, Lucie Carias, c'est de s'interroger sur la question du faux.
Oui.
C'est-à-dire que il est assez rusé avec cette idée du vrai et du faux.
Oui, je pense que ça le fascine aussi bien dans les objets que dans sa musique. C'est-à-dire que, moi je pense par exemple au tombeau de Couperin. Donc, est-ce qu'on a, quel type d'hommage à Couperin est-ce qu'on a? Donc il y a des danses qui sont de danses de l'époque de Couperin, et puis en fait il y a qu'une seule danse, la Forlane, qui est vraiment empruntée à Couperin et retravaillée. Et je pense que Ravel il se cache en fait derrière le faux pour dire qui il est lui tout le temps.
La question du faux, Pierre Corzelius, là encore, vous avez joué avec dans cette exposition.
Il y a beaucoup de faux, et ça l'amusait, la différence entre le faux et le vrai. Il disait lui-même, on s'en fout. Et même le rythme du boléro, qui est quand même, ça nécessite vraiment une émission à part de relater l'histoire du boléro, des académies de boléro, etc., qui est quand même tellement fort et important pour la musique espagnole. Et en fait, il crée, avec le boléro, il crée un mythe, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire, il recrée, alors peut-être pas une marque, mais en tout cas, il crée un mythe. Et aujourd'hui, quand on parle de boléro, c'est le boléro de Ravel, alors que le boléro de Ravel n'est finalement pas le boléro le véritable de l'histoire de la musique espagnole. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça l'amuserait, mais au plus haut point. Et d'ailleurs, il a dit à la fin de sa vie, je suis désolé, encore une citation, à la toute fin de sa vie, on lui fait écouter le boléro, il est avant son opération, il écoute le boléro à la radio et ses amis, mais Rara, qu'est-ce qu'il arrive? Tu rigoles? Il tape sur ses genoux et il dit, mais quel bon tour j'ai joué au monde musical.
Ah oui, c'est ça, et au monde musical, et pas seulement au monde musical, au cinéma.
Oui. Au monde.
À la culture populaire.
Mais c'est un jeu. Moi, je voudrais juste revenir sur l'histoire du vrai et du faux, parce que je pense que ça touche à la question de la sincérité. Là, je n'ai pas la citation, mais en gros, il dit que l'art, ça n'est pas de la sincérité. Mmh. Et ça, c'est aussi très intéressant dans cette fabrique du vrai et du faux.
Alors, quand c'est Franck Zappa qui joue le boléro, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je serais tenté de dire, comme vous, Pierre Corzelius, on s'en fout.
On sait pas.
On s'en fout et on écoute. Giulia Puma, bonjour. Alors vous, vous êtes une historienne de l'art italien, de la Renaissance, et vous, ben voilà, ça, vous allez nous sortir des anges musiciens, des trucs comme ça. Ben, comment on voit la musique?
Alors, on va essayer. Donc l'exposition de la Philharmonie, vous nous l'avez expliqué, donne à voir et à entendre comment Maurice Ravel déploie un art musical pour mettre en valeur l'art de la danse. Mmh. Elle donne aussi à voir comment les arts visuels peuvent valoriser la musique. Et il y a notamment le film de François-René Martin. Vous avez dit non seulement les musiciens sont disposés en spirale, mais avec un code couleur. Retenons cette idée du code couleur parce que ça va nous servir. Et pour évoquer la manière dont se déploie la ligne mélodique du boléro. Alors, cher Patrick, je vous propose de faire un saut dans le temps et de regarder comment les peintres italiens déploient leur art visuel pour y mettre en valeur les autres arts. La musique, d'abord, et la danse. Ensuite, en somme, je voudrais vous faire découvrir la capacité de la peinture à inclure, à citer, à valoriser d'autres arts. Les anges, tout à fait, sont au premier chef les figures porteuses de cette rencontre des arts dans l'image. C'est vrai pendant plusieurs siècles, c'est vrai dans tellement de centaines d'images que j'ai fini par en choisir seulement deux pour essayer de donner une idée un peu concrète de la chose. Je vous propose qu'on regarde d'abord un Piero della Francesca, peint dans les années 1470, d'accord, et ensuite un Botticelli. J'ai pas fait très original, mais...
Mais ça nous va très bien, donc on commence par le Pierrot.
Exactement. Donc ils sont tous les deux conservés à la National Gallery à Londres. Le premier tableau, donc Piero della Francesca, a fait pratiquement un carré. Imaginez-vous un carré d'un mètre carré, 20 de côté, qui est tout à fait inachevé, ce qui le rend encore plus fascinant. Et il représente la naissance du Christ, ce qui joue un écho avec le Noël des jouets que vous évoquiez à l'instant. Au premier plan, c'est ce qui va nous intéresser le moins. Imaginez un Jésus nouveau-né, tout nu, à même le sol, dans le froid, et sa mère, la Vierge Marie, agenouillée face à lui, priant qu'il le regarde et l'adore.
On voit très bien.
Passons au second plan qui nous intéresse bien plus, et qui est incroyablement peuplé dans cette image. Des bergers, un bœuf qui tend le museau vers le nouveau-né, et surtout, un groupe de 5 anges en plein concert. 3 jouent d'un instrument, du luth ou de la viole, et 2 chantent. Piero della Francesca les représente distinctement la bouche grande ouverte, confirmant au passage ce que nous rappelait dimanche dernier dans sa carte postale Mathieu Pot-Bonneville, à savoir qu'avant le XVIIIe siècle, la peinture représente volontiers les sujets la bouche grande ouverte.
Rien ne vous échappe, décidément.
Il nous manque encore 3 personnages pour avoir une idée complète des figures présentes au second plan. Un âne qui se trouve entre les anges et le bœuf et, figurez-vous, qui lève le museau au ciel, retrousse les babines et se joint au cœur angélique. Inversement, une pie, l'oiseau, posé sur le toit de l'auvent et qui se tient en silence. Et un Saint Joseph, enfin, assis au bord de l'image, les mains croisées, très méditatif, le regard concentré sur le concert. Il détourne notre attention du premier plan, de l'apparent Noël, et il concentre notre attention sur le concert angélique. La grande spécialiste américaine de Piero della Francesca, Marilyn Aronberg-Lavine, a proposé une belle interprétation de ce qu'on pourrait appeler finalement un concert de Noël. C'est une peinture, mais c'est un concert de Noël. La pie, nous dit la chercheuse, d'ordinaire un oiseau très bavard, assez désagréable, et réduite au silence. Et c'est un autre animal, c'est l'âne, qui rejoint le concert. Pourquoi ? Parce qu'il incarne l'humilité totale dans laquelle Dieu le Père fait naître son Fils. Dans ce tableau, à Londres, le décor, comme les personnages, sont représentés dans un relatif dénuement. Et par contraste, les anges détonnent complètement. Leurs instruments sont superbes et le plissé de leurs robes, les anges eux-mêmes portent des diadèmes de perles dans les cheveux, des colliers. Toute cette richesse a bien sûr un sens. Elle est là pour nous faire sentir, nous faire ressentir par les moyens du visuel, c'est ce qui nous intéresse, la musique, le fait que le tableau représente un moment de fête. Tous les indices figurés caractérisant les anges, instruments, bouche ouverte, positionnement groupé, nous disent qu'ils célèbrent un moment extraordinaire en faisant retentir une musique céleste. Le peintre prend à l'évidence le plus grand plaisir à évoquer un autre art que le sien propre, celui de la musique. Il confère à son image une dimension sonore non sans humour, puisqu'il inclut un âne qui se joint au chœur angélique.
Ok, donc là, ce sont des anges qui performent, hein. Ils chantent, mais est-ce qu'ils dansent aussi ?
Mais bien sûr, on va trouver aussi des anges qui dansent. Il y a des tableaux qui montrent les deux ensemble, moi j'ai décidé de scinder pour simplifier. Regardons donc un autre tableau pour nous faire une idée de tout le mouvement qu'un peintre peut rendre tangible dans une image fixe. Vous avez parlé en parlant de Ravel de la cadence. On va se concentrer sur la cadence qu'on peut sentir dans une image. Nous restons donc à la National Gallery et nous observons maintenant notre Botticelli du jour, la Nativité mystique. C'est un grand tableau qu'il a peint en l'an 1500, tout rond, dans une Florence très agitée. Après la mort de Savonarole en mai 1498, alors que les guerres d'Italie font rage. Dans ce contexte, Botticelli signe une composition profondément inspirée qu'il fait surmonter par une inscription en grec. Oui, en grec, où il date le tableau, il évoque les troubles de l'époque et il invoque l'Apocalypse qui va tout régler, pas forcément à la manière douce. Donc sous cette inscription, qui est cryptée, tonitruante, grandiloquente, imaginez cette fois un tableau rectangulaire d'1m10 par 75 cm environ et trois registres. On va vite pour la description. Tout en haut, une ronde d'anges, 12 d'entre eux qui se tiennent tous par la main.
Parfait.
Ils évoluent avec grâce, vêtus d'amples robes aux couleurs variées. Revoilà le code couleur qu'on évoquait tout à l'heure. Et leurs plis, les tissus des robes flottent et accompagnent, amplifient leurs mouvements. Partout autour d'eux, il se trouve des rameaux d'olivier et des phylactères, ces petits bandeaux qui permettent d'insérer du texte dans une image, sur lesquels on peut lire « Gloria in excelsis Deo », ce qu'on vient d'entendre dans une version de Vivaldi. Au registre central, de nouveau, ce qui nous intéresse le moins, pour parler facilement, c'est-à-dire la scène de Noël elle-même, Jésus nouveau-né au sol, sa mère qui l'adore, le bœuf, l'âne très sage, cette fois très silencieux, Joseph replié sur lui-même. Peut-être ce qui nous intéresse ici, ce sont ces trois anges posés sur le toit de chaume de la crèche qui représentent les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, qui reprennent et varient les couleurs de la danse qu'on a vue au registre supérieur. Et venons-en maintenant au registre le plus bas, celui qui est le plus près de nous, celui qui est fait pour nous parler. La chorégraphie reprend de plus belle avec trois couples. Un homme, un ange à chaque fois. Ils se tiennent par les épaules, ils s'embrassent tous. C'est une image de profonde réconciliation qu'on découvre là, que Botticelli veut construire. Comme chez Piero della Francesca, les anges frôlent le sol terrestre pour manifester les motifs qu'ont les hommes de se réjouir, voire de garder la foi. La performance artistique, c'est ça qui nous intéresse ici. L'apparition angélique est une manière de dire ce que par l'expression artistique, la recherche d'une harmonie, on peut dire de la joie puissante qu'on peut atteindre.
Il y a quelqu'un qui a dit ça très bien, mais moi aussi j'avais gardé une citation, mais je crois que je ne peux pas la dire parce que c'est bientôt la fin. C'est Abby Warburg, c'est ça, quand il décrit les nymphes, c'est ça dont il sait.
Absolument.
Bon. Et ça, voilà, ça montre que, merci Julia, ça montre que, oui, il y a quelque chose à voir dans la musique et cette mise en imagination de la composition musicale, elle a une longue durée. Lucie Caillas, qu'est-ce que ça vous inspire, cette, cette histoire.
C'est cette histoire du mouvement, en fait, de la danse, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Et ça m'a fait penser à un tout petit motif, parce qu'il y avait aussi l'Antiquité qui est passée avec la Grèce. Cette danseuse grecque avec l'holos, la flûte double, que Ravel a dessiné lui-même et qui est, en fait, est devenu le motif décoratif d'une chaise du Belvédère. Moi, ça me fait penser à ça aussi, c'est-à-dire que la danse, elle est aussi dans le quotidien, elle n'est pas que dans le boléro, et c'est ça que ça m'a évoqué, en fait.
Parce qu'on y revient, Pierre Corzilius, d'une certaine manière, on a parlé beaucoup de musique, de sa visualité, mais au départ, c'est une danse, et c'est aussi l'histoire chorégraphique de toutes les versions de ce boléro qui a, d'une certaine manière, saisi les danseuses et les danseurs du monde entier, chacune et chacun voulant, au fond, performer, comme vos anges, Julia, son boléro.
Oui, jusque sous la tour Eiffel, les ballets Béjart avec cette chorégraphie légendaire qui l'a amené propulsé au cinéma avec le film Les uns et les autres.
De Claude Lelouch.
Et au-delà de ça, on le trouve dans l'exposition des expressions chorégraphiques de tous les continents, de tous les styles, très surprenant quelquefois, mais aussi une déclinaison dans le domaine du cinéma, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc le boléro a trouvé aussi son chemin dans le cinéma, et alors c'est pas des chorégraphies, mais néanmoins je souligne ce film Love Exposure par Sion Sono, cinéaste étonnant japonais, où le boléro illustre une scène de bagarre, en fait, extrêmement violente, et je pense que ça illustre bien le caractère universel de ce boléro.
Oui, parce que l'universalité de ce boléro, autant du chemin de fer et du cinéma, Lionel Dufaux, c'est bien justement d'être peut-être quelque chose comme l'hymne de la modernité, non ?
Probablement, et puis un parfait exemple de ce que les arts de l'entre-deux-guerres vont nous montrer, vont nous donner à écouter, à voir sur la transformation, les bouleversements du monde de cette époque-là, oui.
Ben c'était Allons-y voir. Merci à vous toutes et tous, Lionel Dufaux, Lucie Caillas, Pierre Corzilius et Julia Pouma. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Aline Biette et Sophie-Catherine Gallet, à la prise de son Alexandre Dang et à la réalisation Riyad Kairat. Merci à vous.